frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André de Mujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi. Nous sommes ensemble pour près de 55 minutes de débat citoyen dans Parole aux auditeurs. Tenu dans les prochains jours à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, du dialogue intergénérationnel. Selon les organisateurs, ce dialogue est un espace pour la création d'un cadre d'échange permanent entre les jeunes, les aînés et les décideurs de la province. Notons que le dialogue intergénérationnel est une innovation visant à promouvoir la bonne gouvernance et la participation citoyenne en impliquant davantage les jeunes à la vie publique et économique de la RDC. Selon vous, quels sont les préalables pour la réussite du dialogue intergénérationnel qui s'organise dans le Haut-Katanga et comment impliquer davantage la jeunesse dans les instances de prise des décisions? C'est la question au centre de nos échanges. Paul Badianyama est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Anania Jiremabondo. Quant à moi, Pierrot et la Mengi, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mengi.
Et le thème global qui est choisi pour le dialogue intergénérationnel qui doit se tenir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga est jeunes au centre du vivre ensemble communautaire et le développement du Haut-Katanga. Et nous en parlons dans ce magazine avec Monsieur Smith Etumba, qui est défenseur de la charte africaine de la jeunesse pour l'Union africaine et coordonnateur du dialogue intergénérationnel en RDC. Monsieur Smith Etumba, bonjour. Monsieur Etumba, bonjour. Voilà, là on semble avoir des petits soucis sur la ligne des Smith Etumba qui est avec nous dans ce studio comme dans cette émission comme l'invité. En attendant que nous puissions retrouver encore l'invité qui intervient à partir des Lubumbashi, nous avons Justin qui nous appelle de Bounia. Justin, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à notre invité.
On vous écoute Justin.
En fait, la jeunesse du Katanga, c'est une jeunesse qui est beaucoup plus manipulée du point de vue politique. Et puis, ils ne sont pas beaucoup plus... ils ne se donnent pas. Et donc, quand ils ne se donnent pas, et quand les politiques viennent, et puis, c'est les politiques qui prennent beaucoup de plaies sur la jeunesse du Katanga. Mais quand je me pose la question de savoir, est-ce que au niveau du Katanga, est-ce qu'il n'y a pas la société civile? Est-ce que il n'y a pas en tout cas l'État qui peut organiser et comment la jeunesse peut avoir peut parler un même langage ou parler dans une unanimité? Et donc moi je me demande souvent pourquoi les jeunes, parce que les jeunes du Katanga considèrent c'est comme si Katanga c'est un pays, oh c'est ni qu'une province, Monsieur Pierrot. Et donc moi je demanderais en tout cas que les chefs de l'État, je demande que les gouvernements puissent s'en charger.
Si vous avez bien suivi notre sujet, nous parlons du dialogue intergénérationnel qui n'est pas une affaire seulement du Katanga. Là, il y a une édition qui va se tenir au Katanga. Prochainement, ça peut être à Bounia, ça peut être en Mbujumai, ça peut être partout où on peut organiser cela. Mais la question aujourd'hui, c'est comment la jeunesse peut-elle être impliquée davantage, y compris là où vous êtes à Bounia. Comment les jeunes peuvent-ils être impliqués davantage dans les instances de prise de décision?
Oui, et donc dans les instances de prise de décision, les jeunes peuvent être appliqués sur plusieurs sens, du point de vue politique, du point de vue développement. Mais quand je vois notre pays, la jeunesse, il y a en tout cas un chômage déguisé. Et lorsqu'il y a des chômages, c'est ce qui cause même les atrocités ici à l'Est, M. Pierrot. Quand vous voyez que les jeunes peuvent s'appliquer dans la prise de décision, mais les jeunes, il y a le chômage. Quand un jeune chôme, vous voyez que ça peut donner aussi certaines mauvaises idées. Alors, moi, j'ai en tout cas, ce que je demande, que pour que les jeunes soient réellement appliqués, on doit chercher des travails. Parce que chaque année, il y a des diplômes et des diplômes. Mais ces jeunes là restent à la maison, créent des groupes, restent dans des balançoires, et puis c'est ce qui crée même beaucoup d'embouteillages et ce qui crée même des atrocités.
Merci beaucoup Justin. Pour vous, vous estimez que pour impliquer davantage le jeune dans les instances de prise des décisions, la première chose c'est l'accès à l'emploi. Vous êtes à Bounia et vous avez dit quand les jeunes ne savent pas, n'ont pas d'accès, n'accèdent pas à l'emploi, quand ils sont en chômage, c'est là ils sont tentés à pouvoir aller par exemple dans les groupes armés pour les cas de jeunes dans les provinces de l'Est. Je pense que cette fois-ci c'est bon. Merci beaucoup Justin de nous avoir appelé de Bounia. Je pense que cette fois-ci c'est bien. Nous avons retrouvé notre invité, Monsieur Smith Etumba. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierre Elamézi. Bonjour.
Vous êtes défenseur de la Charte africaine de la jeunesse pour l'Union africaine et coordonnateur du dialogue intergénérationnel en RDC. Commençons d'abord par les débuts. C'est quoi exactement le dialogue intergénérationnel?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Pour nous, le dialogue intergénérationnel, ce sont les cadres que nous essayons de mettre en place. Des cadres d'échange qui réunit les jeunes, les décideurs qui sont à la tête de la gestion du pays, et également les aînés, les vieux, les adultes qui ont vécu et qui ont plus de l'expérience à la gestion de la communauté et de la société civile. L'essentiel de ces cadres, c'est de faire en sorte que les processus décisionnels que nous, les jeunes, pour lesquels nous combattons, nous, les jeunes, soient en fait un processus réel, un processus qui amène des résultats palpables, d'où avec les propositions, avec les projets partant des jeunes eux-mêmes. Les désiderata des jeunes sont présentés à ces décideurs. Les décideurs également présentent les moyens de faire pour que ensemble, nous essayons de voir comment concrètement on peut intégrer les jeunes dans l'espace décisionnel. Mais c'est l'espace décisionnel dont il est question que les dialogues intergénérationnels militent, pour lesquels les dialogues militent à travers l'accompagnement de l'Union africaine et de notre gouvernement sur place, qui a aussi favorablement porté cette initiative. Il n'est pas seulement question de lutter pour intégrer les institutions. Il est aussi question de créer cet espace consultatif qui, partant de recommandations et des propositions des jeunes, pourrait également aider l'autorité à actionner ces politiques, en actionnant les politiques selon les besoins réels venant de jeunes eux-mêmes. Voilà un peu en quelques lignes comment je peux expliquer le dialogue intergénérationnel dont nous avons la responsabilité de l'implémentation.
Alors, si on peut faire un pas, un bond en arrière, comment ce dialogue, la conception, qu'est-ce qui a milité vraiment pour la mise en place de ces cadres?
L'idée pour la mise en place de ces cadres, c'est ce que je dis, on a commencé par un cadre au niveau national. L'année 2021, nous avons reçu les moyens de l'Union européenne, l'effectivité de moyens de l'Union européenne pour mettre en place des dialogues intergénérationnels. Cela a été parti du mandat de la RDC à l'Union africaine qui était présidée, comme vous le savez, par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Et tout est parti de là. Sous son accompagnement, nous avons été accompagnés par son bureau à travers la conseillère spéciale en charge de la jeunesse et le ministère de la jeunesse. Nous avons mis en place ces dialogues. C'est un sommet qu'on met en place. Un sommet qui relate qui prend en compte les discussions sur 5 secteurs. Et à le secteur de la démocratie, bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, nous travaillons sur la paix, la sécurité, la prévention de conflits. Il y a l'éducation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Nous travaillons sur la santé, l'environnement et le développement durable. Et à la fin, il est aussi question de discuter sur des enjeux liés au sport, la culture et les patrimoines de notre pays. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous essayons d'ajouter aussi le tourisme pour essayer de valoriser ces secteurs-là et comment est-ce que nous pouvons apporter, nous les jeunes, notre contribution à être des acteurs clés dans ces secteurs, pas seulement des questions de la politique. Et voilà qui est l'idée. Et de par ce dialogue, il nous a été recommandé que le dialogue qui a été fait au niveau de Kinshasa et ses plateformes nationales soit également perpétué dans les provinces. D'où même la raison de notre présence de l'équipe du dialogue intergénérationnel actuellement dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes en train de, d'échanger avec le gouvernement provincial au travers du patronage de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, ici, Jacques Kabila, pour voir comment implémenter ces dialogues ici et mettre ce cadre ici où les jeunes, à un moment venu, opportun, partageront leurs besoins pour la politique qui doit être orientée vers avec les autorités.
Alors, pour parler d'une manière plus pratique de ce qui doit se faire à Lubumbashi, c'est deux jours de discussion et après tout le monde est parti où il y aura un cadre permanent de concertation qui pourra rester dans le cadre de ces dialogues dans le Haut-Katanga.
Oui, à l'expérience de Nord Kivu et de l'Ituri, nous venons, je venais même d'écouter un collègue jeune de l'Ituri. Je pense que si il se rappellerait très bien, on venait de Bounia en début de mois de juillet, où nous avons fait la même chose là-bas avec le gouverneur militaire John Kanchama, qui a appuyé les travaux là-bas. Et il est resté derrière un comité inclusif qui tient compte d'un quota de jeunes et de vieux, et notamment des vieux qui sont venus de la société civile, une représentation de la division provinciale de la jeunesse et également du gouvernorat même, qui se rencontrent chaque fois pour voir par rapport à des recommandations qui étaient prises en place, qui ont été formulées, comment les rendre palpables. Et le comité est là, il est géré par les locaux, en fait, les gens qui vivent dans la contrée pour suivre sa mise en œuvre. Il est aussi question de bonne foi entre les partis qui adhèrent au dialogue intergénérationnel, de pouvoir s'entraider de manière à sorte que les conclusions qu'ils prennent puissent être réellement exécutées et que les cadres soient pérennes pour que, à chaque fois qu'il y a besoin, de discuter sur des questions réelles qui partagent les générations.
Voilà, on vous garde en ligne, Monsieur Smith Etumba. Je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes défenseur de la Charte africaine de la jeunesse pour l'Union africaine et coordonnateur du dialogue intergénérationnel en RDC. Les auditeurs sont nombreux sur notre standard. Jules est à Bukavu, Alidor est à Kananga et Michael qui est à Goma. Nous allons revenir à vous. La question, c'est comment réussir le dialogue intergénérationnel avec ce qui va se passer dans le Haut-Katanga, mais aussi d'une manière générale, nous élargissons. Agissons nos idées sur la manière dont les jeunes peuvent être aujourd'hui impliqués dans les instances des prises des décisions. Je rappelle encore le numéro, c'est le 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Bukavu. Jules, vous nous appelez de Bukavu dans le sud Kivu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue aussi l'invité du jour.
On vous écoute, Jules.
Ok, merci beaucoup Monsieur Pierrot de m'avoir accordé la parole. Je tiens d'abord à féliciter cette initiative des dialogues intergénérationnels qui sera organisé au niveau du Katanga. Bien entendu, d'encourager aussi les peuples katangais qui est en train de montrer à la face du monde qu'il veut une unification donc de notre pays. Bon, par rapport à la réussite de ce dialogue, moi je pense que il serait mieux d'abord de mettre à côté toutes les divergences politiques, parce que c'est ce qui est le germe de toutes les contradictions que nous vivons dans notre pays. Dès lors que les camps politiques se retrouvent sur une même table, là, il y a des points, il y a des impasses, alors que l'objectif qu'on s'est fixé pour un dialogue comme celui-là est banni. Et là, on commencera à parler seulement de la politique. Or, à part la politique, il y a d'autres choses que nous devons faire dans notre pays. Alors, comment impliquer les jeunes dans la gestion donc de la chose publique dans notre pays? Mais Monsieur Pierrot, nous oublions peut-être une chose, que les jeunes doivent savoir que les jeunes ou la jeunesse a une énergie très forte et les aînés aussi ont une expérience. Alors, dès lors que nous faisons les mariages des CD concepts-là, moi je pense que notre pays peut aller de l'avant et chacun pourrait se retrouver. Je prends le cas de la ligne maritime congolaise qui est dirigée par la mère Nende, secondée par Cédric Tshizainga Kapumba. Bon, je vois que la majorité de ceux qui occupaient les postes au sein de cette entreprise publique étaient des jeunes, donc des vieux de 50 ans, de 60 ans, mais aujourd'hui, la moyenne, c'est 30 ans, 35 ans. Vous voyez, avec M. Cédric Tshizainga, que les choses ont changé. Alors que la jeunesse aussi, comme le disait notre auditeur, donc notre compatriote qui est à Bounia, qu'il y a ce problème-là de manque d'emploi. Si la jeunesse n'a pas l'emploi, sachez qu'elle sera toujours porteur des drapeaux au sein des partis politiques, alors que nous avons aussi des compétences. Mais Pierrot, comment comprendre quelqu'un qui a un diplôme de licence et faire les troisièmes cycles? Pour moi, les troisièmes cycles, c'est quoi? C'est les cycles de chômage. Alors que vous terminez les études, alors que vous n'avez pas un emploi. Je vous donne un exemple pour enrichir un peu mon idée. J'ai un ami qui a fini en médecine. Mais après avoir fait 5 ans de chômage, il s'est retrouvé dans la rue. Alors qu'est-ce qu'il s'est décidé? Il s'est décidé d'ouvrir un petit shop où il charge ses téléphones. Et là, il fait entrer donc des transferts de chansons dans des cartes mémoire. Aujourd'hui, si vous arrivez chez lui là et vous lui demandez, vous parlez, vous amenez un petit débat sur la science, en tout cas, il vous dira non, je ne suis pas vraiment capable de débattre encore de la science parce que notre gouvernement nous a trahis. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait la médecine et c'est retransformé en quelqu'un DJ. C'est quelque chose qui est embêtant.
Alors, ça veut dire que là, vous posez un problème, Jules. Vous avez dit, oui, Jules. Jules, vous avez dit, en commençant d'abord par la réussite du dialogue intergénérationnel, vous avez dit, Jules, il faut mettre de côté les divergences politiques. Hein, c'est ce qui, souvent, fait que les jeunes n'arrivent pas à s'entendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez souhaité que le jeune puisse avoir accès à l'emploi. Et c'est là qui peut aussi leur permettre qu'on leur donne la chance quand ils ont le diplôme d'accéder au poste de responsabilité selon leur domaine. Ils peuvent montrer aussi de quoi ils sont capables. Merci beaucoup, Jules, de nous avoir appelé de Bukavu. Maître Alidor, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, si vous avez suivi notre débat, nous articulons autour des deux préoccupations. D'abord, comment, quels sont les préalables pour la réussite du dialogue intergénérationnel? Et en deuxième lieu, c'est qu'est-ce qui doit être fait pour permettre à ce que les jeunes accèdent aux instances de prise de décision à l'IDOR?
Oui, Monsieur Pierrot, vous savez que nous tous, quand nous sommes nés, il y a un adage on continue à appliquer à tort selon lequel si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et la communauté a toujours renié un peu la maîtrise de la science, la maîtrise de, donc, le manque d'expérience à la jeunesse. On considère toujours la jeunesse comme une tâche d'âge dépourvue de la sagesse et de l'expérience. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils peuvent toquer à un endroit X ou Y, on vous demande toujours l'expérience de 5 ans. Alors on se demande, l'expérience de 5 ans, on vient de quitter l'université, où est-ce qu'on l'a acquise? C'est un peu ça, Monsieur Pierrot. Alors aujourd'hui, s'il y a le dialogue intergénérationnel, c'est une bonne initiative qui doit être louée et emboîtée par toutes les provinces, parce que Monsieur Pierrot, la jeunesse constitue le poumon même de la vie sociale. Mais quand vous allez vous rendre compte que dans la vie politique, dans la vie en société, les jeunes sont reniés. On recourt seulement aux jeunes quand il faut les manipuler au moment des échéances électorales pour les instrumentaliser et poser des actes de vandalisme, et ainsi de suite. Mais quand ils partagent le pouvoir, on oublie cette tranche de la population. C'est comme ça que nous disons, s'il y a vraiment un dialogue sincère, c'est un problème, des dialogues sincères intergénérationnels. Parce qu'il peut y avoir aujourd'hui le dialogue avec d'autres agendas cachés, mais s'il y a vraiment un dialogue sincère avec comme objectif de pouvoir intégrer la jeunesse dans les instances de prise de décision, je pense que c'est une bonne initiative, Monsieur Pierrot. Et pour y arriver, vous allez vous rendre compte que sur le plan légal, il y a un vide juridique. Il n'y a pas les lois qui promeuvent les droits de jeunes, il n'y a pas un cadre juridique qui rend obligatoire la représentation des jeunes dans les instances de prise de décision, comme on l'a fait avec la parité. Aujourd'hui, là, c'est un problème, il faut toujours que la femme soit représentée dans les institutions publiques. Mais cela n'est pas encore le cas pour les jeunes. Donc, c'est aussi un plaidoyer qu'il faut mener au niveau du Parlement, il faut avoir aujourd'hui des lois qui promeuvent et qui protègent les jeunes et qui rendent obligatoire la représentation des jeunes dans toutes les institutions publiques. Ça, c'est de un. Madame, Monsieur Pierrot, il faut aussi que les jeunes puissent prendre conscience, que les jeunes ne puissent pas s'oublier, que les jeunes ne puissent pas s'imaginer qu'ils ont aussi un rôle important à jouer dans la société et ils sont seulement là pour être manipulés par les politiciens. Il faut que les jeunes prennent conscience qu'ils ont un rôle déterminé à jouer pour l'épanouissement de notre pays. Et troisièmement, Monsieur Pierrot, il faut aussi que l'État puisse accorder certaines facilités ou exonérations sur le plan fiscal, même sur le plan administratif. Les jeunes entreprennent dans certains cas les activités, mais il faut aussi qu'il y ait certaines facilités que l'État doit accorder aux jeunes afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ce n'est pas seulement théorique, mais il faut cela aussi que cela soit traduit en actes. Et si on fait ça, M. Thierry, nous pensons que la jeunesse pourra en réussir là où les vieux n'ont pas réussi aujourd'hui et apporter peut-être un vent nouveau, un souffle nouveau dans l'avenir sociopolitique congolaise.
Merci beaucoup, Maître Alidor. Alors, Michel, vous êtes à Goma, vous gardez la ligne, le temps que notre invité puisse réagir à ce que le compatriote venait de dire tout à l'heure. Alors, Monsieur Fiston, Monsieur Smith et Toumba, vous venez de suivre les compatriotes hein, qui ont donné certains préalables. Quelle est votre réaction?
Oui, je viens de suivre calmement Monsieur Jules qui a donné des éléments et c'est très important. Je sens aussi cette énergie qui sort en eux de pouvoir à bien mener la question de la jeunesse. Tout comme moi, je suis jeune, nous voulons vraiment que nous-mêmes jeunes, nous prenions conscience de ce que nous avons comme potentialité et ce que nous pouvons aussi offrir au-delà de ce que nous réclamons. Donc il est possible que nous-mêmes, nous jeunes, je salue même celui qui fait déjà sa petite Pubiphone où il essaie de faire des transferts de musique payants, c'est déjà un emploi. Mais c'est vrai que ce sont des emplois, mais qui ne sont pas alimentaires. Et c'est l'entrepreneuriat, déjà, il commence bien, il peut évoluer. Et en ce qui concerne l'emploi qui pouvait nous donner l'État, nous avons des propositions à donner. Comme par exemple, nous, en ce qui concerne l'expérience des jeunes, nous avons proposé partout où on est passé, même dans les provinces, que le gouverneur puisse ne fût-ce que prendre que certaines décisions qui encouragerait les entreprises qui sont dans sa juridiction à pouvoir prendre ne fût-ce que les jeunes, pas pour les employés, mais quand même pour des stages professionnels aussi. L'expérience peut partir pas seulement d'un contrat, mais ça peut partir d'un stage professionnel, ça peut partir aussi d'un petit contrat de consultance où les jeunes il apprend petit à petit et au-delà des potentialités qu'il a naturellement, au-delà des dons et ce qu'il a appris avec l'expérience du travail, parce qu'aujourd'hui l'expérience du travail semble beaucoup plus primée même sur les compétences alliées avec la formation de quelqu'un. Et ça faciliterait aux jeunes d'intégrer l'emploi petit à petit. Et au niveau national, comme le dernier a dit, il faut aussi peut-être avoir des lois organiques pour que les législateurs pensent aussi comment il faut imposer la participation et le quota des jeunes dans des entreprises publiques. Mais aussi, au-delà de ça, il y a également l'aspect, j'ai loué aussi le processus des ministères des fonctions publiques et même de l'emploi, qui aujourd'hui pense déjà qu'il faut ramener l'ancienne génération à la retraite. Ça, c'est vraiment un processus que nous devons encourager pour ce qui est des fonctions publiques. Ça permettra aussi que le jeune puisse remplacer aux vieux qui sont déjà éligibles pour partir à la retraite. Et c'est déjà aussi un très grand pas. Mais seulement, nous ne pouvons pas seulement nous jeunes compter sur l'emploi au niveau public. Nous pouvons aussi créer l'emploi. Nous pouvons être exigeants à l'autorité de mettre des conditions favorables pour l'entrepreneuriat. Les investisseurs viennent qu'il y ait des emplois privés. Que nous-mêmes, le jeune qui ose créer ne fût-ce que des petites entreprises, qu'il ait quand même des conditions favorables, comme au niveau du dialogue, la recommandation sur l'emploi du dialogue passé. Il avait été recommandé à ce que l'État puisse exonérer des jeunes qui ouvrent leurs entreprises pendant 2 ans pour leur permettre que pendant ces 2 ans-là, ils se constituent, que ces entreprises soient mises, après qu'il soit vraiment qu'il soit bien enraciné, qu'il soit bien mis sur le terrain, l'État peut maintenant commencer à venir faire des recouvrements. Seulement il peut partir des guichets uniques, et après avoir reçu ce document de guichet unique, on les laisse travailler calmement pendant 2 ans, et on suppose que un jeune performant qui a bien pris au sérieux son entreprise, à l'issue de 2 ans, il sera à mesure d'être stable et de répondre à quelques dues de l'État. Donc c'est très important, c'est des propositions que les jeunes donnent. Mm-hmm. Il faut vraiment que l'État en tienne compte. C'est de cette façon-là qu'on pourra créer Merci. Des conditions mm-hmm. favorables pour les jeunes et mm-hmm. de leur permettre aussi d'évoluer très bien.
Merci. Alors, on va maintenant écouter Michael qui est à Goma, qui nous a rejoint dans cet échange. Bonjour Michael.
Bonjour très cher Radio Okapi. Je dis tout le monde merci pour m'avoir associé à cette émission. Mm-hmm. Je rappelle aux auditeurs que je suis le docteur Michael Bolingo, dans la ville de Goma. Nous encourageons vraiment l'initiative du dialogue qui va se faire au Katanga. Nous souhaitons que ça soit ici, aussi dans d'autres provinces. Mais je vais aller d'abord des causes. Pourquoi la jeunesse n'est pas tellement impliquée? Vous allez voir d'abord, il n'y a plus de retraite. Nous connaissons ces gens de nos parents qui ont commencé de travailler depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils occupent toujours de hautes fonctions et quand vous regardez sur le terrain, vraiment aucune réalisation. Ou s'il y a une réalisation, c'est pour leur propre avantage. Dès vous allez voir, nous finissons nos études. Moi qui vous parle, je viens à peine de finir mes études à l'Université de Goma, à Messine. Je peux créer ma petite entreprise, une pharmacie, mais vous allez voir, c'est même l'État-là qui allait nous soutenir. Il va passer par des taxes, des impôts, et pourtant nous avons multiples sources qui peuvent nous aider à avoir des taxes et des impôts. Vous voyez tout ça. Maintenant, quand est-ce que la jeunesse va se retrouver? Moi, je suggérerais au gouvernement et à la CENI que les vieux de plus de 65 ans ne puissent plus se représenter aux élections. Parce que vous allez voir, tous les meilleurs députés de la de l'Assemblée sont des jeunes. Tous les meilleurs ministres qui travaillent sont des jeunes. On ne peut pas, nous ne pouvons pas écarter les pieds. Ils doivent être là, juste pour nous coacher, nous montrer, voilà, demain nous ne serons plus là. Voici comment vous devez gérer les choses. Parce que ils ne vont pas nous condamner demain du moment où nous n'avons pas monté la ligne à suivre. Vous êtes en train de me suivre.
Oui, on vous suit, Michael, on vous suit.
Voilà. C'est tout ça comme difficulté auxquelles nous sommes soumis. Maintenant, vous allez voir avec moi que nombreux finissent leur objectif. On nous demande des expériences. Mais comment on va acquérir une expérience du moment où on n'est pas aux affaires? C'est impossible. En tout cas, il serait mieux qu'on supprime ce genre d'affaires. Ça va nous aider aussi, nous, la jeunesse. Et parce que nous avons toutes les forces possibles. Je soutiens l'idée de l'ami de Bukavu. Vraiment, il a tout dit. Lorsque vous arrivez, vous essayez de filer les riz de différentes villes, vous verrez vraiment la jeunesse.
Voilà. Alors, docteur Michel, vous l'avez dit, il faut qu'on puisse organiser la retraite pour ceux qui sont déjà plus vieux et permettre à ceux que les jeunes puissent aussi avoir être casés. Mais l'invité a parlé tout à l'heure des initiatives des jeunes aussi qu'il faut encourager. Et là, vous avez dit la difficulté aujourd'hui, c'est la multiplicité des taxes. Hein. Il venait de les dire. Alors, nous avons Désiré qui est à Kalemi et Xavier qui nous appelle de Lubumbashi. On vous écoute avant de revenir encore à Smith et Tumba pour placer un mot de commentaire. Désiré, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Désiré, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes avec Désiré. Xavier, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Xavier.
Merci. Le sujet est très important. Ici, je dirais que l'initiative, premièrement, est une très bonne initiative que nous devons soutenir. mais cependant, ça doit se dérouler dans un cadre très bien structuré. Parce que quand vous voyez,
Oui, Xavier, on a des problèmes. Hein. Vous êtes en train de marcher, il y a un coup de vent qui fouette votre téléphone. Si vous pouvez vous repositionner très bien calmement, comme ça on peut bien vous entendre, sinon ça devient difficile d'écouter votre intervention. Alors vous avez dit, il faut encourager l'initiative du dialogue intergénérationnel, mais ça doit se dérouler dans un bon cadre, c'est ça?
Oui, ça doit se dérouler dans un bon cadre, oui. C'est-à-dire ici, parce que à chaque fois que nous assistons à ces gens de dialogue, nous voyons que les jeunes, ce que eux entendent par les jeunes, ce sont des militants de partis politiques qu'on appelle, on mélange à des membres de la société civile factice, c'est-à-dire qui ont une tendance en réalité, et puis on se dit que non, les jeunes se sont réunis, ils ont parlé, ils ont fait un dialogue. Toutefois, si nous voulons que, comme cette initiative, c'est une initiative excellente, nous voulons à ce que qu'on puisse prendre le vrai jeune. Mais comment on va y arriver? C'est-à-dire ici, déjà, dans le travail de préparatoire, il a fallu d'abord cibler, faire connaissance aux jeunes, donc faire connaître aux jeunes dans différentes structures officielles. Parce que nous avons plusieurs structures officielles. Il y a des jeunes qui œuvrent dans des structures essentiellement sociales, et il y a des jeunes qui sont dans des structures, bien entendu, politiques. Il y a des jeunes, etc. Donc, des jeunes qui sont dans le jeune scientifique, intellectuel, qui sont dans des universités, etc. Alors, on peut sensibiliser tous ces jeunes et on essaye de voir, de sélectionner toutes les possibles couches des jeunes. On sélectionne pour que ces jeunes soient représentés là-bas. Parce que, comme vous voyez, on ne pouvait pas parler de la jeunesse où en réalité la jeunesse ne se retrouve pas. Parce que ici, il y a une chose que je tiens tout de même à relever ici. Comme vous voyez, la jeunesse aujourd'hui est utilisée abusivement. Vous voyez, les partis politiques ici sont en train de droguer des jeunes, sont en train, vous voyez, de recruter des jeunes pour se servir de quoi, de bouc émissaire. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que la jeunesse doit être utilisée. Nous voulons que la jeunesse puisse jouer réellement son rôle de manière libre, de manière intellectuelle et de manière politique, sociale. Parce qu'il ne faudrait pas que, comme ce dialogue ici qui va arriver bientôt là, qu'on puisse déjà, il y a déjà des gens sélectionnés là qui ne sont pas réels, qui ne représentent pas vraiment la vraie
jeunesse. Alors Xavier, merci, mais parce que vous êtes à Lubumbashi, notre invité est à Lubumbashi, Maître Deo, grâce à vous êtes à Lubumbashi, restez aussi en ligne. Nous revenons directement à vous, Smith et Toumban, par rapport à ce que les compatriotes venaient de dire, mais il y a aussi cette préoccupation de notre ami qui est à Lubumbashi. Là, c'est pour nous permettre d'expliquer un peu quelles sont les modalités pratiques de la tenue du dialogue intergénérationnel. Ce qui va se dérouler à Lubumbashi, la sélection des participants, combien de personnes vont être intéressés, comment ont-ils été sélectionnés, vous avez suivi, c'est parce que les amis ont peur aussi de voir qu'à un certain moment, dans le dialogue, ça devient une affaire des jeunes des partis politiques ou soit des sociétés civiles qui ont une tendance politique et les autres ne se sentent pas impliqués. Alors comment, sur les plans pratiques, vous procédez pour l'organisation du dialogue intergénérationnel?
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Xavier. Je pense que nous sommes tous ensemble ici à Lubumbashi, bien que je suis de passage. Et je vous lance déjà une invitation à vous-même comme participant. Je pense que mon numéro, vous pouvez même m'écrire, je sais pas, je suis sur Facebook, sur Twitter, je suis sur Instagram. Même, et mon adresse, je peux même vous partager mon adresse mail à partir de la rédaction. Vous pouvez entrer en contact avec moi, je vous invite très clairement. Nous avons une participation prévue de 100 participants, pas seulement des jeunes. Le dialogue d'abord, c'est un cadre inclusif, comme je l'ai dit, qui tient compte de toutes les représentations, de toutes les composantes de notre société. Également, si il a dénoncé les pratiques qui ont existé ou qui continuent à exister sur le déguisement des jeunes militants des partis politiques dans des assises communautaires qui n'ont pas été vraiment la couche réelle de la représentation de la société civile, ça c'est sont pas des bonnes pratiques. Nous pouvons dénoncer tout ça et nous ne serons pas d'accord avec ça, mais toutefois nous ne pouvons pas exclure les jeunes qui sont des partis politiques. La pratique avant, c'était que quand il s'agit d'une situation, d'une affaire de la société civile, des rencontres, on pouvait pas inviter les jeunes de Ligue des jeunes du parti politique parce qu'ils pourraient, ils sont plus jeunes, ils n'ont plus à donner parce qu'ils viennent seulement pour leur parti. Non. Mais nous, au niveau du dialogue intergénérationnel, nous avons tenu compte de la participation aussi de ces jeunes des partis politiques. C'est qu'ils font partie d'une des composantes du dialogue intergénérationnel et ils ont leur quota de participation sur les 100 participants qui seront avec nous. Alors, les dialogues, c'est comme ça qu'on organise. J'ai dit tantôt que c'est pour 100 participants et c'était prévu. On ne saura pas amener tout le monde parce que les moyens sont aussi très limités. Nous travaillons vraiment avec le gouvernement provincial ici, à travers le ministère provincial de la jeunesse, et une équipe qui est ici, déjà une équipe qui a été composée, qui est ici sur place, et également la contribution du conseil provincial de la jeunesse. Nous essayons vraiment, et nous sommes vraiment regardants à ce point, à ce que les représentations soient respectées, qu'il n'y ait pas une représentation au-dessus d'une autre. Et même le quota de participation est 50-50, donc vieux et jeunes. Nous sommes partis 50-50 jeunes entre femmes et hommes. Donc nous essayons de faire tout ça selon les politiques et les modèles de l'Union africaine tel qu'il est promis. C'est pour cela qu'il nous fasse confiance. Et lui-même, comme je viens de lui lancer cette invitation, il pourra aussi être dans la salle et il va observer. Il peut même nous aider à faire une étude d'évaluation à la fin de l'activité pour évaluer qu'est-ce qui a été vraiment respecté dans ces assises.
Alors, parce que vous avez évoqué les modalités pratiques, vous avez été dans le Nord Kivu, vous avez été à Bunia, aujourd'hui c'est le tour de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, et après les assises de Kinshasa et les quelques provinces déjà effectuées, y a-t-il aujourd'hui des retombées en termes de réponses, que ce soit les jeunes eux-mêmes dans leur engagement ou au niveau de pouvoir public?
Bon, au niveau de Kinshasa, moi je dirais le premier retombé de ce qui est de Kinshasa, c'est lié à ce que nous sommes en train de faire. Nous avons ciblé pas toutes les provinces pour cette année, nous avons ciblé que 8 provinces pour cette année et nous sommes en train de suivre à ce que cette partie des recommandations soit mise en place. Mais au niveau du ministère de la jeunesse, nous avons eu une mi-session d'évaluation en mi-mai. Et le ministre de la jeunesse lui-même, l'excellence Yves Boukoulou Zola, a donné un tableau de réalisation déjà tenu par rapport à des recommandations qui ont été données par les dialogues de 2021, il a fait même mention de quelques contributions de la jeunesse sous la loi électorale, il a fait mention de l'évolution des pas d'MPE, il a fait mention de l'intégration sur le projet 145 territoires où il y a récemment une session aussi de cours d'information à Kinshasa avec les jeunes, il a fait mention de la mise en place de fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a fait mention de beaucoup de choses qui ont évolué selon lui à partir des recommandations de dialogue intergénérationnel. Mais c'est un processus, ça ne doit pas être automatique. Le dialogue a eu lieu il y a quelques mois et aujourd'hui nous ne pouvons pas déjà compter les résultats. Mais nous sommes basés beaucoup plus à des résultats, à des recommandations qui font naître les engagements basés sur le concret. C'est que pas des engagements pris qui soient vagues et longs en termes d'exécution. Au moins, les signaux peuvent partir en court terme et le reste pourrait venir à moyen terme et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les recommandations soient prises à long terme.
Voilà.
Nous aurons les dialogues évaluatifs, le plus grand dialogue évaluatif de novembre, du 1er au 3 novembre à Kinshasa encore, où toutes les couches vont revenir pour évaluer les acquis des dialogues passés et quelles sont les propositions, les engagements en cours et ceux qui n'ont pas tenu pour les renvoyer dans l'année prochaine.
Voilà.
Et également pour préparer la jeunesse à comment s'y prendre sur les questions liées au processus électoral. Parce que c'est aussi un cas majeur auquel nous avons tous dénoncé aussi l'utilisation des jeunes que pendant les périodes électorales. Mais les jeunes doivent avoir aussi une attitude à présenter, avoir aussi à savoir comment est-ce qu'ils sont, ils sont une force, une énergie, et ils ne peuvent pas se laisser jouer à tout moment. Il faut qu'ils se réunissent pour se dire, voilà comment on se comporte.
Voilà. Alors, nous allons écouter Maître Deo Gracia qui est à Lubumbashi et Marie-Paul qui est à Kisangani. Je rappelle encore que c'est 081-890-49-69.
Parole aux auditeurs.
Maître Deo, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité et également à tous les auditeurs de la radio Capi. Par rapport à cette thématique du jour, c'est vraiment quelque chose ou une initiative à encourager. Les dialogues intergénérationnels, c'est à encourager le fait que la jeunesse de ce pays est abandonnée à son triste sort. Aujourd'hui, pour accéder à des postes de prise de décision, nous constatons que la jeunesse est abandonnée. Si vous lisez la Constitution, en commençant par la présidence de la République, donc un président, donc toute personne qui a 30 ans peut postuler comme président de la République. Et quand il postule comme ça, il a le droit aussi d'être voté. Mais ce qui n'est pas le cas, vous ne verrez plus d'accomplissement dans ce pays. Pourquoi ? Parce que la jeunesse est abandonnée, voire même les députés. Aujourd'hui, il est très difficile de voir un député très jeune, même s'il venait postuler. Vous allez voir, il est minimisé. Les gens s'attendent toujours à recevoir quelque chose influencé par de l'argent. Pourquoi vous voyez que la jeunesse est abandonnée ? Maintenant, cette initiative-là de faire des dialogues intergénérationnels, nous voulons que les résolutions qui seront prises dans ces dialogues-là puissent aboutir à nous donner des solutions, puissent aboutir à propulser la jeunesse d'occuper un jour le poste de prise de décision dans ce pays. Parce que le développement de ce pays, ou soit le développement à venir de ce pays, dépend de la préparation des jeunes actuels. Si les jeunes sont manipulés, les jeunes sont politisés, les jeunes sont derrière les leaders des partis politiques, les jeunes ne peuvent pas se développer un jour, les jeunes ne peuvent pas s'impliquer pour le développement de ces pays. Donc les jeunes doivent aussi participer à la gestion de la chose publique, de la reus publica. Mm-hmm. C'est ce que je voudrais apporter comme contribution dans ce débat. Donc nous voulons que les jeunes soient aussi considérés. Il faut que les lois qui seront légiférées, qu'on puisse imposer les dispositions impératives qui doivent nécessairement impliquer les jeunes dans les différents organes, dans les différentes institutions pour prendre les décisions.
Merci beaucoup, Maître Deo. On écoute Marie-Paul qui nous appelle de Kisangani. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, il faut dire que les clivages et la discrimination entre les jeunes, le VIA, que nous constatons de manière générale en République démocratique du Congo, et si nous faisons l'analyse sémantique de tous ces clivages et de toutes ces discriminations, il nous revient de dire que les responsabilités sont partagées. Et les responsabilités sont partagées du fait que les jeunes eux-mêmes sont responsables des méconnaissances que les vieux leur donnent comme qualification, et aussi les vieux aussi sont responsables des traitements un peu discriminatoires que les jeunes font, parce que les jeunes disent que les vieux ne veulent pas que les jeunes arrivent au pouvoir. Voilà pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées. Alors, lorsque nous lisons les lois, on peut aller dans les résolutions des Nations Unies, la constitution de la RDC, aussi des lois, et toutes ces lois mettent tout le monde dans les mêmes pieds. Et on évite la discrimination, parce que les pays ne peuvent pas seulement compter sur les vieux ou compter exclusivement sur les jeunes. D'où la nécessité que les jeunes et les vieux se mettent ensemble pour la chose, pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, aborder la question par rapport au dialogue initié par le dialogue qui sera tenu à Katanga, un dialogue intergénérationnel. Alors, moi je trouve que c'est une bonne initiative. c'est une bonne initiative parce que ce que nous sentons ici, c'est que dans notre pays, il y a quand même cette absence des liens entre le vieux et le grand. Nous le voyons même en matière de l'employabilité et même dans les recrutements, on voit que on n'a plus fait de conditions. Et lorsqu'un jeune prend le pouvoir, il est plus minimisé. Pourquoi il est minimisé? C'est parce que, de part et d'autre, nous aussi, nous ne sommes pas aussi trop responsables par rapport à ce que nous faisons. Et d'où, on doit quand même se parler en fond, et en mettant les vieux, les jeunes ensemble, pour qu'ils se disent les uns les autres par rapport à certaines déconsidérations ou considérations, ça sera une bonne chose.
Alors, et voilà alors, pourquoi alors, moi Marie je dis Paul, que c'est une bonne initiative. On est bousculé par le temps, Marie-Paul. Il y a encore deux auditeurs en ligne qui voudraient intervenir. Vous avez salué l'organisation du dialogue intergénérationnel. Vous estimez que c'est un cadre très important parce qu'on ne peut pas compter sur le vieux seulement ou sur le jeune seulement. Il faudrait le mettre ensemble. Et l'unique manière de le mettre ensemble, c'est autour d'un dialogue comme celui-là parce que les responsabilités sont partagées aujourd'hui dans ce qui arrive à la jeunesse. Merci beaucoup, Marie-Paul. Augustin, vous nous appelez de Bukungu. Bonjour, Augustin.
Bonjour, bonjour à tous les amis.
On vous écoute, Augustin.
La parole. Je crois que quand nous disons, mes prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel, mais nous voulons juste placer un dialogue intergénérationnel. C'est vraiment très louable. Parce que nous remarquons, ce qui est à la base, le mot de fait que ne puisse pas développer, c'est que cette jeunesse n'est pas prise en compte par le vieux. Et aujourd'hui aussi, la politique qui est venue aussi une façon de présenter un peu et de disséminer cette jeunesse.
Là, Augustin, ça c'est compliqué. Augustin, ça c'est compliqué hein, de pouvoir vous suivre parce que là, la ligne pose un certain nombre de problèmes, des difficultés pour pouvoir joindre les studios comme il faut. Vous avez dit, le problème aussi arrive au niveau de considérations politiques. Hein. Notre invité l'a dit tout à l'heure que les jeunes sont utilisés des fois quand il s'agit des manifestations, mais quand il s'agit d'accès aux responsabilités, on a tendance à les oublier. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin avec votre ligne téléphonique. Nous retournons ici à Kinshasa, nous allons en Boujimaï. Kalo Kalonji, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, pour m'avoir associé à ce débat citoyen.
On vous écoute, Kalo.
Je sais que quand je vis votre sujet, je me suis dit que le dialogue intergénérationnel est une bonne chose, mais une aventure au même moment. Pourquoi je l'ai dit? Que dans la société, là où les gens se retrouvent, on doit quand même se parler. Mais vous pouvez poser seulement la question au passé. Tout ce que nous avons comme organisation dans notre pays, je prends un cas par exemple sur les conseils provinciaux de la jeunesse. Vous savez que c'est une organisation qui nous concerne nos jeunes. Mais en réalité, si les jeunes qui sont là essayent de parler au nom des jeunes, mais moi je me suis toujours dit qu'ils parlent au nom du comité des jeunes qui existe. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas me dire que quand ils parlent, quand il y a des postes, on peut voir d'autres jeunes qui sont en dehors de leur comité. C'est pourquoi même moi je me dis, les organisateurs, s'ils sont des vieux, moi, je me dis que c'est une aventure. Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous avons un grand problème dans des sociétés, que ce soit dans la fonction publique. Vous ne pouvez pas oser aller remplacer un papa. Ici, chez nous, il y a ce que nous appelons les mauvais sorts. Au cas où vous osez, vous n'êtes plus là. Et regardez aujourd'hui, même au niveau de la prévoyance sociale, division de prévoyance sociale dans les provinces. Est-ce qu'on tient compte de ce qu'on nous impose dans des sociétés, par exemple, avoir le minimum d'expérience de 5 ans, avoir travaillé 5 ans, mais nous venons franchement de terminer les universités. Cette histoire-là, qui pose des problèmes? Ce sont des vieux.
Si les vieux alors, pour être vous, Kalo, si parce nous, on doit permettre à notre invité de réagir et conclure. Vous avez dit, le problème aujourd'hui, c'est ça devait partir de conseils provinciaux de la jeunesse qui, malheureusement, Ça n'implique pas beaucoup de jeunes, plutôt que les membres de conseil eux-mêmes qui ont été peut-être élus. Alors, la deuxième chose, vous estimez que les aînés, comme l'a dit notre invité dans le dialogue, posent aussi problème. Voilà, il y a autant de problèmes qu'on ne pourra pas tous aborder dans cette émission. Et nous revenons à vous, Monsieur Smith Etumba. Alors, nous devons conclure cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de conclusion? Et tout à l'heure, vous aviez demandé s'il fallait que les gens entrent en contact avec le dialogue intergénérationnel. Faudra-t-il donner un numéro de téléphone, les emails, comment entrer en contact avec vous? Et ça permet aussi de pouvoir placer le dernier mot par rapport à ce qui s'organise dans à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot. Je résume la question de l'abandon des jeunes. Je dis qu'à ce moment, il n'y a plus d'abandon des jeunes. Les autorités et nous travaillons en étroite collaboration. Personne n'est abandonné. Et aussi, par rapport à la responsabilité partagée des jeunes de vie, ça c'est vrai. Nous-mêmes, les jeunes, nous devons être sérieux dans ce qu'on nous donne comme responsabilité. Il faut qu'on soit sérieux dans des petites choses, même quand il s'agit de ces conseils de la jeunesse, il faut qu'on les prenne avec sérieux. Si on n'arrive pas à être sérieux dans des petites responsabilités qui nous reviennent pour notre propre gestion, il n'est pas aussi facile que les autres générations nous prennent au sérieux. Donc ça c'est très important ce qu'il a dit, je partage cet avis avec lui. Et nous au niveau de l'Union africaine, nous venons renforcer les conseils et tout ça, et nous-mêmes, et avoir un nouveau type de la jeunesse qui peut encore inspirer pour confiance aux uns et aux autres. Mais à ce qu'on peut retenir de cette ma conclusion pour le dialogue serait que nous puissions nous approprier l'initiative. L'initiative, elle est partie de l'Union africaine et nous qui l'implémentons. Et il ne pourra pas rester à l'Union africaine comme institution. L'Union africaine, c'est nous tous, c'est la RDC, c'est la population africaine. Donc partout, l'initiative vient et est implémentée. C'est bien que nous nous approprions et gérer cette initiative de manière à ce qu'on crée toujours cette ambiance d'échange entre les parties prenantes. Et c'est à l'avantage de la jeunesse. Et pour ce qui est de l'organisation ici au Katanga, à Lubumbashi, ceux qui désirent ou ceux qui désiraient participer au dialogue intergénérationnel peuvent contacter les 09 90 73 plutôt et 5000 à la fin. Et ou soit ils peuvent appeler au 081 80 99 450. Ça, ce sont les numéros du comité préparatoire.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, Smith et Tumba, pourriez-vous reprendre encore ces deux numéros de téléphone?
Oui. Je disais, les premiers numéros, c'est le 09 90 73 5000. Les deuxièmes numéros, c'est le 081 80 99 450. Ce sont les deux numéros auxquels ils peuvent joindre les organisateurs de dialogue au niveau de Haut-Katanga. Donc nous sommes là, nous remercions beaucoup plus aussi la radio Okapi qui essaie de relayer les messages de jeunes, qui relaie également l'importance de ce dialogue intergénérationnel. Et particulièrement, je peux remercier la représentante spéciale secrétaire générale de la MONUSCO, des Nations Unies plutôt, chef de la MONUSCO, qui est toujours là et apporte aussi parmi son agenda les questions des jeunes, comme elle appuie et soutient la résolution 2250 ONU jeunes, la résolution 2250 paix et sécurité pour les jeunes. Donc tout ça, ça converge dans la lutte pour l'émancipation et l'intégration de la jeunesse à l'espace décisionnel. Je remercie aussi vous-même le responsable des émissions qui a accepté de nous inviter et de nous donner cette opportunité de communiquer sur les tenants et les aboutissants des dialogues intergénérationnels.
Merci.
C'est une initiative, une innovation qui vient pour essayer de pallier à ces questions des conflits intergénérationnels, de chercher comment est-ce que les transferts de compétences entre les générations peuvent être possibles et laisser la place aux jeunes à prendre les grandes responsabilités dans la gestion de la chose publique et de nos communautés également. Merci beaucoup.
Merci. Je rappelle à nos auditeurs que notre invité, c'est Smith Etumba, défenseur de la Charte africaine de la jeunesse pour l'Union africaine et coordonnateur du dialogue intergénérationnel en RTC. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Merci à la Radio Capi.
Alors, merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Anania Jiré Mabondo. On retrouve cette émission sur www.radiocapi.net. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, je vous retrouve demain pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Merci et au revoir.